Un balado de 37e Avenue.
Si j'avais aujourd'hui à réfléchir un peu, c'est quoi la souveraineté la plus menacée? La souveraineté culturelle en est une, bien entendu, mais je pense que c'est aussi la souveraineté démocratique. Parce que ce qui se passe de plus en plus à l'heure actuelle, c'est que les États se trouvent à être un peu défiés par les géants numériques qui ne veulent pas reconnaître l'autorité des États. Ça a un impact, cette souveraineté-là des États qui est défiée par les géants numériques à tous les égards. Et puis, ça a un impact aussi sur tout ce qui s'appelle la désinformation, la mésinformation. Et ça fait en sorte que notre démocratie, elle est aussi attaquée et vraiment en sérieuse difficulté. C'est ce que je considère actuellement. Moi, j'ai parfois l'impression que les géants numériques et puis leurs propriétaires sont conscients qu'ils ont créé eux-mêmes un monstre qu'ils ne contrôlent pas. Et puis, c'est là où je pense qu'il est important d'avoir une certaine forme d'autorité, autorité réglementaire, mais autorité des États, puis l'État de droit aussi. C'est majeur parce que la seule façon d'avoir des législations, c'est de passer par les États. Et ça veut dire qu'il faut rétablir l'autorité de l'État et l'État de droit. Ce sont des géants qui sont... Eux autres, ils considèrent qu'il n'y a pas de frontières. Les ondes, le nuage, le cloud, là, ça n'arrête pas un poste frontière. Et de ce point de vue-là, ils considèrent qu'ils ont entièrement le droit de faire n'importe quoi.
On vient d'entendre Alain Saunier, professeur honoraire à l'Université de Montréal et auteur du livre « Les barbares numériques » qui parlait dans le balado de Bruno Guglielminetti du symposium « Souveraineté culturelle et géants numériques » dont il était le co-organisateur. Ça s'est tenu tout ça les 18 et 19 avril dernier. Si vous voulez regarder la captation, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode parce que CPAC était là pour filmer le tout. J'y étais, j'ai pas pu assister aux deux journées par manque de temps, mais j'y étais beaucoup pour entendre la ministre du patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, qui ouvrait le symposium. Elle a dit d'emblée qu'elle était habitée par un sentiment d'urgence, et là je la cite, « Nous avons atteint un point de non-retour. Ces entreprises, par des géants numériques, ne peuvent plus opérer au-dessus de nos États. » On est dans le paradigme où on a des entreprises qui sont globales, auxquelles on essaie de mettre des barrières pour des questions notamment de souveraineté culturelle. C'est quand même lourd de sens, tout ceci, qu'une ministre fédérale dise ça publiquement. Je trouve ça quand même important, je trouve ça aussi réjouissant. Il y a des initiatives qui sont lancées pour essayer d'encadrer, pour essayer de légiférer dans ce domaine-là. Au Canada, bon, il y a la loi C-18 sur les nouvelles en ligne, la loi sur la diffusion continue en ligne aussi, la loi C-11. Bon, certains considèrent ces lois-là, ces initiatives, comme timides, mais c'est un début. Et puis bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer si les conservateurs de Pierre Poilievre prennent le pouvoir parce qu'ils ont déjà annoncé vouloir abroger ces deux lois, ces 18, ces 11, ce qui nous ferait tout simplement retourner en arrière. Donc voilà. Alain Saunier, qu'on a entendu plus tôt, veut écrire un prochain livre qui sera « Comment s'affranchir des géants numériques ». C'est sa croisade. Hein, Alain suit de près l'initiative « La Nouvelle Place ». C'est sa croisade d'essayer de faire en sorte qu'on se débarrasse des géants numériques. C'est un grand projet, mais mon Dieu que la marche est haute. Parce que si, bon, dans des symposiums universitaires, on s'entend sur cette fameuse urgence d'agir, il y avait dans tout un gratin de leaders d'opinion du Québec, des patrons de médias, d'anciennes ministres, des gens bon, du domaine de la culture, des TI. Bon, il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait vraiment un réel mouvement. Mais j'ai pas l'impression que ça percole tant que ça jusque dans la population, ni même qu'elle s'en préoccupe de ce qu'on s'est dit pendant ce symposium-là. Je vous donne un exemple qui a été un peu la petite déception de la semaine. On peut pas juste avoir des succès dans ce projet-là. Des fois on est déçu, puis bon. On a des conversations en ce moment avec différentes personnes, différentes organisations pour obtenir des lettres d'appui au projet de la Nouvelle Place. C'est quand même pas un projet tellement controversé. On demande à des organisations crédibles de signifier qu'elles appuient la création, la mise sur pied d'un média social local géré sous la forme d'une coopérative sans but lucratif. On n'est vraiment pas en train de... On est en train d'inventer une sorte de service public là, qui servirait à tout le monde. On leur demande même pas d'argent à ces organisations-là, juste de nous dire que l'idée est pas pire puis qu'elles approuvent l'initiative. Jusqu'ici, on a reçu des lettres d'appui de plusieurs organisations, de Télé-Québec notamment, qui comprend dès le début très bien la démarche. On a des lettres de la Fédération professionnelle des journalistes ont signifié leur appui. J'ai d'ailleurs accordé une entrevue à la Fédération la semaine dernière pour parler du projet. L'Association des journalistes indépendants du Québec aussi. L'Ordre des pharmaciens nous appuie, ça c'est quand même bien. Le Conseil québécois de la coopération de la mutualité nous appuie. Le Média d'action climatique 1.5 nous appuie aussi. Il y a beaucoup d'organisations qui nous appuient, qui trouvent que c'est une bonne idée. Et on s'en réjouit. Mais on se heurte parfois des gens qui se disent pourtant spécialisés là, dans la question des médias sociaux et qui voient aucun problème avec l'actuel contexte. C'est quand même étonnant. On a reçu un refus, par exemple, assez décevant de la part de je la nommerai pas, mais une institution financière qu'on aurait cru sensible au fait qu'on ait choisi la formule coopérative. On nous a essentiellement dit « qu'est-ce que ça donne? » Facebook, avec des arguments comme « Facebook crée de l'emploi au Québec ». Donc ça, c'était leurs arguments. Quand on a une ministre du patrimoine canadien qui nous dit qu'il y a urgence d'agir, qu'on a atteint un point de non-retour, qu'un paquet de leaders du Québec, du Canada, de la France, de la Belgique se réunissent pour discuter de souveraineté culturelle vis-à-vis des géants numériques, que le Sénat américain convoque les géants des médias sociaux pour leur dire qu'ils nuisent à la société et leur demander de rendre des comptes, qu'un peu partout dans le monde, on cherche à se doter de lois pour rétablir l'autorité des États face à ces sociétés qui se croient tout permis, mais qu'on nous dise encore, malgré tout ça, que notre initiative sert à rien, c'est quand même étonnant de se sentir à ce point, et surtout quand on travaille dans ce domaine-là, de se sentir à ce point peu concerné par l'état des lieux dans le monde numérique. Ça nous indique clairement que dans le camp des gens qui ont des idées différentes, qui sont capables de formuler une réelle vision d'avenir pour ce monde numérique dans lequel on est, quelque chose qui serait un peu plus axé sur le bien commun. Il n'y a pas tant de monde que ça qui ont ces idées-là. Et notre travail en ce moment, et c'est un peu la raison pour laquelle on a parti ce projet-là il y a quand même maintenant 9 mois, c'est parce qu'on le sait que c'est extrêmement difficile de faire accepter une nouvelle idée. Une idée qui bouscule un peu ce qui existe actuellement. La normalité n'est jamais inconfortable, jusqu'au moment où quelqu'un donne un coup de pied là-dedans et dit « Écoutez, là, gang, là, c'est pas normal ce qu'on est en train de vivre, là. C'est pas normal le contexte dans lequel se développe le continent numérique. Ce n'est pas souhaitable. » C'est sûr qu'aujourd'hui, vous n'en voyez absolument pas les désavantages parce qu'on ne connaît que ça. La normalité n'est jamais inconfortable. Allô, Steve Proulx, micro du balado La Nouvelle Place. La Nouvelle Place, une initiative citoyenne qui veut doter le Québec et la francophonie canadienne de son propre média social pour réduire notre dépendance collective envers les géants numériques, espérons-le. On veut créer essentiellement une place publique numérique basée sur d'autres valeurs que la fameuse recherche de profit. Dans cet épisode, on discute un peu plus de la contribution des citoyens et citoyennes dans cette future plateforme. Parce que oui, on aimerait que les gens s'impliquent dans cette plateforme. Et pour discuter de tout ça, ben, je le fais avec une membre du comité provisoire de La Nouvelle Place, Claudia Beaumont. Bonjour Claudia.
Bonjour.
On rentre dans le vif du sujet comme ça.
Oui.
Claudia, s'il y a des gens parmi les gens qui nous écoutent qui se souviennent, tu avais déjà été mon invité à ce micro dans l'autre balado que je faisais, le balado Les Écrans, et on avait parlé ensemble de ce qui te passionnait, les projets passion et un peu l'économie des créateurs. Et donc, j'étais il y a, je pense, en 2022.
Ça fait, déjà.
Oui, c'était novembre 2022. Oh. Et bon, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Hein?
Non, mais pourtant, j'ai l'impression que c'était il y a quelques
c'était
mois.
Hier. Ben, en tout cas, moi, ça, moi, ça a été une belle rencontre parce qu'on ne se connaissait pas. Puis ça a été une belle rencontre. Puis c'est un peu à cause de cette entrevue-là que j'ai eu l'idée de t'inviter à participer à l'initiative La Nouvelle Place. Tu as accepté. Et puis, ben, ça fait quoi, quelques mois que tu fais partie du comité provisoire, le comité qui est formé en ce moment et qui essaie de faire sortir de terre ce média social. Et puis bon, ensemble, on va parler de deux choses. Aujourd'hui, on a fait un sondage pour sonder la population, les gens, les citoyens, citoyennes, quelle serait leur implication dans la gouvernance et l'activité de ce média social. Donc, on a fait un sondage, on va le commenter ensemble. Et à la fin de notre discussion aussi, j'aimerais que tu nous parles d'une rencontre que tu as eue il y a quelque temps, récemment, avec un autre média social, une initiative de média social en France, Quais. Donc, tu as parlé au cofondateur de cette initiative-là. Il s'appelle le média social autrement. Alors, on va voir si c'est... si autrement que ça. Donc, j'ai des questions. Donc,
oui, allons-y.
On va en parler.
Alors, on commence avec le sondage. Puis peut-être que je voulais juste dire aussi, c'est un premier sondage, hein, parce que tout au cours du processus, ça va n'être un pas pire, là, on s'entend, mais on va devoir sûrement en refaire d'autres. Pas sûrement, on va en refaire d'autres. Au fur et à mesure qu'on va développer le produit, moi, j'avais déjà des questions d'un point de vue peut-être un peu technique. Donc, j'ai très hâte d'inviter les gens qui vont être intéressés.
Absolument, c'est l'idée du projet. Hein? Ouais. C'est une coopérative. On va être constamment en train de poser des questions à nos membres, à nos gens, aux gens qui gravitent autour de ce projet-là. C'est pas tout à fait le premier, parce qu'on en avait eu un au tout début du processus, c'était pas là, mais on avait fait un vaste sondage juste pour... il y avait quelques mille personnes qui avaient
oui,
répondu
okay,
à ça.
Oui, j'ai répondu.
Je pense que tu avais répondu,
oui,
d'ailleurs.
Oui.
Puis, donc, ça, c'est comme un peu le deuxième sondage qui était vraiment concentré sur les monsieur, madame, tout le monde. C'est à eux qu'on a posé des questions. Il y a près de 450 personnes qui ont répondu à ce sondage. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu. D'abord, en découvrant les résultats, quelle réflexion a-t-il surgi dans ton esprit après avoir vu les résultats de ce sondage?
Bon, dans un premier temps, je dirais qu'on regarde les tranches d'âge des répondants, c'était, disons, plus dans la trentaine, quarantaine. Et donc, les choix, la vision qu'eux ont peut-être de médias sociaux dont ils auraient besoin, pour moi, ça me laissait entrevoir une vision de style peut-être Facebook. Mmh. Mais on n'a pas encore rentré dans la vision du produit technologique, là, fait que c'est vraiment juste une petite hypothèse comme ça. Donc, parce que je me questionne beaucoup aussi sur les tendances, on parlait de l'économie des créateurs, comment les plus jeunes vont sur les médias sociaux. On entend tout le temps dire que la Gen Z, la génération Z, va sur TikTok pour s'informer. Puis nous, on fait ça justement pour aider aux médias d'information, entre autres, d'avoir une place pour partager l'information. Donc, comment on va arriver à joindre ça? Comment on peut...
Moi, je ne sais pas à quel point c'est à ce point pertinent de parler de technologie plutôt que de parler de modèle de gouvernance. Parce que ce qu'on propose, c'est une coopérative. C'est par ses membres, pour ses membres. Ce que ça va faire, ce que ça va donner comme résultat, c'est ce que les gens veulent avoir. On n'est pas en train de vendre une solution. On est en train de vendre une idée. On est en train de vendre une nouvelle façon de gérer des places publiques numériques. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Fait que c'est pour ça que je comprends et je pense que c'est l'idée la plus difficile à vendre. C'est-à-dire que les gens me font constamment le commentaire, oh, mais ça va être quoi? On va-tu pouvoir s'inscrire là, puis faire telle affaire, puis telle fonctionnalité? Oui, je sais pas. Aucune idée. Mais embarquer dans le projet, on va faire une coopérative, on va le faire ensemble.
Fait
que c'est ce que vous voulez, on va le faire. Donc, c'est peut-être un argument qui va convaincre un peu plus les jeunes, je sais pas.
Oui, bien, en fait, moi, même par rapport à cette génération-là de plus jeunes, c'est pas tant nécessairement dans la vision concrète d'un média social qu'ils aimeraient avoir, mais aussi les entendre sur ce genre d'idées-là. Mm-hmm. Comment ça peut les rejoindre, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi leur attente par rapport à ça. Puis en étant vigilant aussi sur les tendances, hein, parce que je te rejoins là-dessus, j'en parlais un petit peu brièvement avec toi tout à l'heure, certains vont connaître la plateforme BeReal, qui est un fort succès auprès des plus jeunes. Puis je pense en octobre dernier, ça a rendu à 15 millions d'utilisateurs en peu de temps. Mmh. C'est absolument formidable. Ça a connu un succès un peu comme Clubhouse. Hein, une montée incroyable. Il faut dire aussi qu'ils sont très innovants dans leur façon de présenter le produit, des vidéos courtes, ça ne dure pas longtemps. Tu utilises la caméra de ton iPhone pour avoir ce que tu présentes, puis toi-même en train de filmer. Il fallait y penser, là, c'est quand même cool. Sauf que c'est ça, ça a été une tendance. Et cette génération-là va être des trendsetters qui se fatiguent assez vite. Donc, présentement, la tendance est un petit peu essoufflée. Ils sont rendus à 6 millions. En ce moment, à peu près d'utilisateurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec? Peut-être pas, mais il ne faut pas juste suivre.
Je disais non, puis je lisais une des tendances qu'on voit dans tout, beaucoup de produits. On pourrait parler des voitures, mais là, on pourrait parler des téléphones intelligents puis des médias sociaux. C'est que finalement, tous ces produits-là finissent par se ressembler. Les concurrents finissent par prendre les idées de la concurrence. Puis regardons ce qui se passe, par exemple, de plus en plus Facebook commence à prendre des idées de TikTok. Puis commence Instagram aussi, on met des vidéos. Puis là, on est rendu aussi beaucoup dans la consommation passive d'un fil de nouvelles ou de fils de vidéos, ce qui n'était pas le cas autrefois. Il y avait beaucoup plus de différences très marquées entre Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest. Puis de plus ça avance, plus ça devient un peu pareil, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je ne sais pas. Nous, on va créer quelque chose où est-ce que des gens vont communiquer avec d'autres personnes puis ils vont s'échanger des affaires. De quelle façon? Je ne sais pas. J'espère qu'on va être capable d'évoluer avec notre temps. Ce qu'on crée, je continue de miser sur le fait qu'on est en train de créer une coopérative. Donc, c'est déjà un modèle d'affaires complètement différent. C'est juste ça qu'on veut faire.
Oui, on se démarque en ce sens.
C'est ça notre idée notre idée révolutionnaire.
Mais la petite idée, en fait, que j'aimerais explorer éventuellement dans d'autres sondages, là, on verra. Mais encore là, chez certains plus jeunes, je lisais dans certaines analyses récentes, un désir de plus en plus, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais de se tourner vers des espaces privés, des groupes de discussion. On le voit, là.
Discord est un peu cette idée-là.
Exactement. Hein. Reddit, il y a quand même cet engouement-là de dire on est fatigué d'être dans des endroits. Peut-être qu'il y a eu la fatigue des trolls, il y a plusieurs raisons derrière ça. Mais donc, un engouement vers les espaces qu'on contrôle sont donc peut-être plus personnalisés avec les gens qu'on veut vraiment.
Avec des interactions plus vraies aussi avec des gens qu'on peut. Et c'est très bien.
C'est peut-être une tendance. C'est quelque chose qu'on.
Absolument. C'est une tendance qu'on pourrait explorer. Donc, notre sondage, on posait différentes questions. La grande question de ce sondage-là, c'est qu'évidemment, on essayait de tâter le terrain. On sait que Facebook, les médias sociaux, les TikTok, tout ça, c'est gratuit. Et on sait très bien que quand c'est gratuit, ben, ça veut dire que c'est toi le produit. Hein? C'est toi qu'on vend. Ce qu'on vend à des annonceurs. Si on veut briser un peu ce modèle-là, ben, l'option qu'on a, c'est est-ce que ça vous tenterait de mettre un petit peu d'argent là-dedans? En mettant un peu d'argent, ben, on va vous donner quelque chose. C'est-à-dire, puis ce qu'on a envie de vous donner, ben, c'est une place autour de la table de gouvernance. Donc, c'est vraiment ça, une coopérative. Tu deviens membre et tu as une voix, un membre, une voix. Tu peux voter sur des décisions. Alors, on a posé cette question-là. Est-ce que vous seriez intéressé à devenir membre d'une coopérative de médias sociaux? Et la réponse était quand même, on était combien? On était oui à pas loin de 64 %. Est-ce que ça t'a surpris, ça?
Ça, j'étais pas du tout surprise. À mon avis, ça sera pas difficile d'avancer avec ça. C'est juste que ça va être une idée à sans cesse défendre aussi, parce que quand on va se confronter à un bassin de possibles utilisateurs plus grands, hein, mettons la grande population québécoise, on sort, je ne sais pas trop dans quelle ville, dirait hey, êtes-vous prêt à payer, puis du monde qui sont juste sur Facebook, blablabla, puis bon, sans préjuger, mais qui disent hey, c'est gratuit, puis je m'en fous, moi, je ne m'a pas payé plus pour ça. Et il y a une question aussi importante, qui bon, tout coûte cher maintenant, puis il y a une fatigue de l'abonnement, il y a des gens, même si ce n'est pas la même chose, pourraient mettre ça dans ce même panier-là. Donc, c'est pas impossible. Moi, j'ai l'impression qu'on va devoir faire beaucoup de travail sur la défense de l'idée. Pourquoi c'est important de s'engager? Puis c'est pas très cher, comme tu dis,
ben,
justement.
On a posé la question. C'est sûr que dans une coopérative, à la base, pour devenir membre d'une coopérative, le montant minimal, c'est 10 $. Donc ça, c'est le minimal, selon la loi, qu'on peut demander. Puis on a posé la question, vous seriez prêt à payer combien pour devenir membre? Et ça tournait autour de ça, autour de 10-20 $. Puis c'est un montant une fois, hein, c'est pas non fois à chaque mois, là. Donc c'est 20 $, tu deviens membre et tu fais partie de cette organisation-là. Ce média social-là t'appartient à titre de membre. Donc, le sondage disait que, c'est ça, autour de 10-20 $, c'est pas mal. Plus que ça, il y en a quelques-uns qui étaient plus motivés, là, qui sont 50 $, pas de problème, là, mais on parlerait de ça.
Oui, parce que, bon, c'est ça, s'ils sont au courant, on sait comment ça fonctionne, une coopérative.
Ben, pas tant que ça, tu sais, honnêtement, je pose les questions. Qu'est-ce que ça veut dire être membre?
Ouais.
Je pense qu'il faut quand même le dire. La démocratie est au cœur d'une coopérative, ça, c'est quand même, il faut retenir ça. Être membre d'une coopérative comme ça, ça veut dire être invité aux assemblées générales annuelles, donc participer aux décisions, choisir élire les membres du conseil d'administration qui vont gérer tout ça, les administrateurs, voir le rapport annuel, voter aussi pour les grandes orientations de la coopérative. C'est de ça qu'on parlait tantôt. Là. Évidemment, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qui existe actuellement. Je veux dire, moi, Mark Zuckerberg ne m'a jamais appelé pour me demander si j'étais d'accord avec ce qu'il avait fait avec Facebook. Il ne nous consulte pas. Là. Donc, c'est un peu ça qu'on amène sur la table. Est-ce que ça vaut 20 $ ce truc-là? C'est à voir. Moi, je pense que oui. Mais bon.
Est-ce qu'on pourrait penser aussi éventuellement, on le sait que ça vient avec certains avantages?
Oui.
Hein, d'être bon, il pourrait y avoir des avantages peut-être de visibilité ou encore, on n'est pas rendu là, mais on le sait qu'on va avoir des partenaires aussi qui vont travailler avec nous. Mm-hmm, hein, mm-hmm. Peut-être qu'on pourrait dire, on y pense. Puis...
On a posé la question, est-ce que devenir membre devrait venir avec des avantages? Mm-hmm. Ça, j'ai été assez surpris. Les deux seuls avantages qui ont vraiment sorti du lot, c'est ne pas avoir de publicité.
Ouais.
Évidemment, bon, c'est un irritant pour bien des gens, c'est très clair. Et que nos données ne soient pas utilisées commercialement. Donc ça, on sent là, que la question des données revient souvent. Dans notre premier sondage, ça revenait aussi très, très souvent. Dans les médias, on en parle beaucoup de plus en plus de cette économie des données. Où vont nos données? Il y a eu récemment là, une enquête qui avait fait une émission là-dessus.
Avec les téléconnectés.
Oui, puis même avant ça, puis il y a eu un documentaire sur Google, Connais tout. As-tu vu ce truc-là?
Je l'écoutais hier soir, ouais, un documentaire allemand.
Ben oui.
Ils font un sosie à partir des données
exactement.
De la participante.
C'est incroyable, là. Tu sais, je veux dire,
moi, j'ai des frissons à y penser.
Donc, c'est quelqu'un qui te parle, qui tout ce qu'elle a consulté, c'est ton historique de recherche sur Google, et elle est capable de te dire qui tu es exactement. C'est tes rêves, tes ambitions, tes problèmes de santé, c'est inquiétant. Alors, je pense que tout ça, cette question-là des données, inquiète de plus en plus les gens. Donc, c'était le deuxième privilège qu'on aimerait avoir, c'est que mes données ne soient pas utilisées commercialement. La question de plus de visibilité, moi, je pensais qu'elle aurait sorti un peu plus que ça, mais ça semblait pas être... La troisième, c'était tout simplement être membre de la coopérative.
Oui, c'est ça. C'est le soutien. Mais moi, j'ai une question. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais par rapport à la pub, j'étais pas étonnée. Mais je me suis quand même questionnée parce que les gens, la plupart, vont dire « Oui, je suis fatiguée, j'aime pas savoir de la pub. » Quand tu vas écouter un balado parfois, puis c'est une pub que ça t'intéresse un peu moins, des visionnements sur une plateforme de streaming. Bon, on le sait, des plateformes où les contenus sont gratuits, comme par exemple sur Télé-Québec ou TV5, où on n'a pas le choix d'avoir de la pub, même si on est tanné, puis t'as quatre pubs avant, c'est ça. YouTube aussi, évidemment. Or, je me posais la question, mais les médias sociaux, on le sait qu'il y a de la publicité, qui est vraiment bien intégré, mais à quel point les gens se rendent compte que c'est si fatigant que ça? Je me posais la question parce qu'on l'entend, on se dit non, j'en veux pas, mais...
C'est les limites d'un sondage. Hein.
On est beaucoup
dans les perceptions.
Réflexion.
Mais effectivement, il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir des entreprises qui vont se créer des comptes sur ce média social-là. Si tu t'abonnes au compte de telle entreprise, ben, forcément, tu vas recevoir des messages commerciaux de cette entreprise-là. Je pense qu'on parle plutôt de publicités non sollicitées, tu sais, des publicités qui apparaissent sur ton fil de nouvelles, mais tu n'as pas choisi de voir cette publicité-là. Est-ce que les gens sont plus affectés par ça, plus irrités par ça dans un sondage que dans la réalité? Je ne sais pas.
Vraiment, c'est une question. Je n'ai pas la réponse. J'imagine qu'il y aurait beaucoup de...
Oui, puis de toute façon, il ne faut pas oublier que si on lance un média social, avant qu'il y ait de la publicité, ou si on décide qu'il y en a, parce que ça reste une coopérative, on peut très bien décider, il n'y en a pas du tout. Ça prend quand même un volume de population qui est d'un auditoire important, parce que sinon, la publicité, ils ne sont pas intéressés de venir parler à 14 personnes. Donc, ça va prendre, tu sais, je sais que dans Facebook, ça a pris quand même quelques années avant qu'on voit apparaître de la publicité. Mm. Aujourd'hui, on en voit beaucoup apparaître, mais ça a pris quand même un moment. Alors, mais ça reste une coopérative, on peut décider qu'on n'en a pas de publicité. On vivra avec les conséquences de tout ça, cela dit, mais en tout cas, autre question, on a parlé de la cotisation, parce que là, on a demandé aux gens, il y en a 64 % qui sont prêts à devenir membres, à payer une part de qualification pour peut-être pas avoir de pub ou puis on a demandé est-ce que vous seriez prêt à payer une cotisation. Donc là, c'est un montant qui est soit annuel ou mensuel. Une cotisation, c'est vraiment l'idée, dans une coopérative, on a des dépenses communes. Okay. Une cotisation, c'est ça la définition, c'est que tu payes une partie des dépenses communes. Alors, on a un média social qui coûte X dollars à faire vivre, des serveurs à payer, des programmeurs à payer, tout ça. On se donne une cotisation pour payer, c'est comme les frais de condo. Là. C'est exactement le même concept. Donc, ce serait ça. Il y en a à peu près 40 % des gens qui seraient prêts à payer une cotisation. Maintenant, il faut que ça reste dans les limites du normal et on est autour de 5 $, 2 $, 5 $. C'est à peu près ça que les gens seraient prêts à payer.
Ah oui.
35 % pour 2 $ par mois, 32 % pour 5 $ par mois. Donc, on a déjà plus de 65 % des gens, là, c'est dans ces eaux-là. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on aurait sans doute, on peut sans doute imaginer une situation où est-ce que des gens deviendraient membres, paieraient autour de 20 $ et on serait capable d'avoir autour de 60 $ par année de ces personnes-là. Combien ça en prendrait pour faire vivre notre média social? Mettons qu'il nous coûte à peu près, je ne sais pas, moi, autour de... Ce qu'on a en ce moment comme chiffre, c'est que ça pourrait coûter autour de 6 millions par année, l'entreprise, la coopérative. Donc, ça nous prendrait 100 000 membres. Donc, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce que tu en penses? Si je te dis ça, je te lance cette idée-là, on a besoin de 100 000 membres, là.
Ben pour la même que je pense qu'on pourrait aller chercher plus. Moi, je pense plus qu'on devrait viser plus.
T'es plus ambitieuse. OK.
Au Québec. Okay. Mais c'est tout à fait faisable. En plus, on parle du Québec, mais ça peut être aussi des francophones à l'extérieur du Québec aussi qui seraient très intéressés. 100 000, ça me semble... Oui, ça réaliste. Me semble pas... Oui, même moi, je pense même plus. Non. Parce que l'utilisation de médias sociaux, c'est quand même quelque chose de...
Mais 100 000 membres qui acceptent de payer 60 $ là. Tu sais, qu'on va chercher 100 000 personnes qui sont intéressées suffisamment par la mission de service public de cette coopérative pour dire « moi, je verse 60 $ pour participer à ça ».
Moi, je pense que oui, puis ça va prendre bien du travail, là. Okay, on s'en retrousse les manches. Là.
On retrousse les manches.
Mais encore là, la façon que je le vois, j'ai l'impression, puis ça va être beaucoup de travail, on le sait, là, aussi, juste de parler du projet autour de nous. Il y a le groupe Discord. On le dit des fois, on aimerait ça parler un peu plus. Puis c'est tout le temps dans ce travail-là. Exemple, si on allait faire des présentations dans les universités, dans les cégeps, des gens qui sont allumés par ces idées-là déjà, sont pas déjà blasés de la technologie, tout ce qui se passe, là. Ça fait quand même pas mal de monde.
Oui, ça fait quand même pas mal.
Puis moi, je suis persuadée que la part embarquerait là-dedans pour pas grand-chose. Tu payes des fois 2 $ sur des plateformes comme Patreon pour un balado pas rapport. Donc, pourquoi pas? Non, moi, je suis très optimiste par rapport à ça, mais encore là, je pense que c'est réaliste dans la mesure où on est capable de mettre des efforts, de répandre la bonne nouvelle, en fait, de pouvoir en parler comme on le fait entre nous, sauf qu'entre nous, ben, c'est pas tout le monde qui
Puis
nous
moi, ce que je vois, c'est que si ça fonctionne, si on est capable de faire ce tour de force, ben, on aura donné un exemple à suivre. Parce que Aux États-Unis, ils peuvent faire la même chose. En France, ils peuvent faire la même chose. En Angleterre, partout, ils peuvent faire une idée comme ça parce qu'on va avoir validé que la population est prête à ce que le continent numérique ne soit pas uniquement colonisé par des géants capitalistes. On est capable de prendre en charge certaines portions de ça de façon populaire dans d'autres modèles d'entreprise. On a besoin de ça dans le continent numérique qu'on est en train de bâtir. Si la télévision, il n'y avait que des chaînes privées, ça n'aurait pas de bon sens. À un bon moment donné, on a eu l'idée, ça prendrait des chaînes publiques. Ça ne remplit pas complètement le rôle que devrait remplir la télévision si on n'a que des chaînes financées par la publicité. Moi, je trouve que c'est le même débat qu'on est en train d'avoir avec le monde numérique dans lequel on entre.
Je suis entièrement d'accord. Maintenant, c'est vrai, là, on parle et j'y pense. Je me dis, moi, je suis encore plus optimiste par rapport à 100 000 membres. Peut-être que ces 100 000, on y va avec ce chiffre-là, 100 000 membres au départ, ils ne seraient pas... Ils n'arrivent pas tous en même temps sur le produit en tant que tel. Puis c'est justement l'idée qu'on a une communauté qu'on peut animer autrement avec cette idée-là, les engager graduellement sur le produit qui va être à construire. Là, parce que ça ferait beaucoup de monde. En partant, on va vouloir commencer plus petit puis faire des périodes de test.
Je salue ton optimisme. On a besoin de gens comme toi autour de la table, Claudia.
Oh, oui, mais juste pour dire oui, optimisme, mais tu sais pas...
On n'est pas farfelu. Non.
Pas des arcs-en-ciel, des parties ou quoi que ça. Je pense que dans la mesure où on perd... On se fatigue pas, qu'on garde l'élan aussi, puis que c'est encore là. Puis ça, c'est le plus gros,
le plus difficile.
C'est absolument. Pas se fatiguer, puis de s'assurer. Parce qu'on le sait entre nous aussi, il y en a qui en parlent à d'autres personnes, puis ils sont comme, on le sait, c'est quoi les messages autour? Mais pourquoi? On a déjà d'autres plateformes.
Ça fonctionne bien, ces plateformes-là? Vous trouvez que c'est bien? On va continuer avec ça? Oui. Moi, je trouve que les médias sociaux, tout ce que je vois dans les médias, c'est les affaires qui fonctionnent mal à cause de ça. Donc, il y en a beaucoup. Passons au prochain bloc, si tu le veux bien. Parce que Claudia, on parle d'initiative qui pourrait faire école. Autre initiative, c'est un média social français qui est... Est-ce qu'il est lancé? Il est en version bêta, hein?
En bêta, oui.
Quice.
Oui.
Et tu as discuté avec une des têtes pensantes de ce projet, Bruno Leralu. Voilà. C'est quoi Quice? Qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience-là?
Ben c'est ça. Moi, je suis allée justement lui parler pour ça. En fait, déjà en partant, on peut dire ils ne se voient pas comme des compétiteurs. Bon, c'est difficile d'être des compétiteurs des grandes plateformes comme Meta ou TikTok ou X, mais comme une alternative. Donc, vraiment, la façon qu'ils ont développé leurs produits, c'est un peu comme nous. C'est pour ça que j'étais justement intéressée de leur parler. Or, eux, la façon qu'ils ont approché ça, c'est un peu à l'inverse de nous, je dirais. Donc, ils n'en ont pas parlé à personne. Ça fait à peu près 4 ans qu'ils travaillent là-dessus, une équipe de 4-5 personnes avec des compétences différentes, variées. Autant, ça c'est le fun, dans leur bar, il y avait déjà une personne ou deux avec... un background, en fait, de programmeur. Donc, il y a des gens qui étaient là capables de bâtir le prototype, d'autres plus expérience business, communication et tout ça. Donc, pendant 4 ans, ils ont décidé de faire ça, mais sans trop en parler autour d'eux. Donc, depuis 2 ans, je pense qu'il y a quelques publications qui ont commencé à sortir. Ils en parlent, mais pas de véritable campagne. Okay. Encore.
De communication, là.
Non, c'est ça. Puis, donc, parce qu'ils disaient, ils voulaient... Avant d'avoir une véritable campagne, de faire peut-être des publications officielles de leur bord, ils voulaient avoir un produit à présenter concrètement.
C'est quoi leur modèle d'affaires?
Leur modèle d'affaires est assez traditionnel. Donc, il va y avoir par abonnement sans publicité. Okay. Mais ça prend quand même déjà un bon bassin d'utilisateurs. Et donc, c'est de la publicité contextuelle qu'ils veulent avoir.
Mais ce n'est pas une OSBL, ce n'est pas une coop, c'est une entreprise Inc. Classique.
Oui, c'est ça. Okay. Et donc... Ce que je trouve intéressant, c'est ça s'inscrit vraiment là où on est un peu... je parlais sur une alternative aux GAFAM et la logique mercantile. Eux, t'as comme, il y a 4-5 ans, ça n'a pas de bon sens que ces gens-là prennent toute la place, contrôlent nos données. Tout ce qu'on vient de dire, là, eux, ils se le disaient déjà. Le mot d'ordre, c'est vraiment la bienveillance et le respect.
OK. Okay.
Donc, la santé mentale est au cœur de leur priorité du développement du produit. Et ça, la façon que ça se traduit, c'est dans l'implication des usagers. Donc, en fait, les utilisateurs sont invités à participer. On ne les voit pas comme des simples utilisateurs passifs.
OK.
Et ça, c'est quelque chose que nous, on a déjà commencé à parler de notre bord, dire, ben, c'est vrai, comment on peut les engager à rendre la place meilleure? Parce qu'eux, c'est ça, justement, il y a un côté très, très, très optimiste de dire, bon, on va rendre le monde meilleur et moins négatif et tout ça, puis ça commence à gérer ton fil d'actualité sur les médias sociaux.
Okay.
Et donc, dans un premier temps, j'ai eu l'occasion de tester la version bêta. Sans critiquer, bien, c'est sûr, hein, il y a beaucoup de travail encore à faire. La chose que j'ai remarquée, qui est intéressante, c'est qu'on peut évaluer les publications qu'on okay. voit passer, dire si c'est positif, négatif et quel niveau de positif. Ben,
la différence avec le fameux pouce en l'air, ce serait quoi, par exemple? Est-ce qu'on peut faire ça sur Facebook? On peut dire,
oui, il y a ce genre de fonctionnalité-là, okay. si on veut, mais qui est un peu plus détaillé. Alors, quand okay. on s'inscrit, bon, il y a plusieurs tableaux là, à remplir. Dans un premier temps, on nous explique un peu la façon de fonctionner, bon, le code de conduite, si on veut, sur cette plateforme-là. Comme des plateformes aussi de streaming, exemple Apple Music qui me vient en tête, on nous demande c'est quoi nos thèmes d'intérêt.
Okay.
On voit ça un peu partout.
Puis on personnalise
aussi.
Un peu le.
C'est
le,
ça. Okay. Fait que si moi je dis c'est juste politique et loisirs, ben bon, c'est ça qu'on va me présenter. L'idée, c'est de personnaliser ton fil d'actualité avec les contenus, les thématiques que tu as choisies.
Quand tu parlais de santé mentale tantôt, ouais. Tu dis la santé mentale est au cœur de leur réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement?
C'est-à-dire que, bon, c'est ça, pour en revenir à l'implication de l'utilisateur, c'est que si on voit une publication qui est jugée, pas correct, là, que ça peut être un fake news, okay. que c'est, bon, c'est ça, c'est méchant, bon, on peut dire que c'est une publication négative et ça va couper un peu sa visibilité. Elle ne va pas remonter okay. dans les fils d'actualité okay. Des autres utilisateurs. Mais plus on dit que c'est une publication qui mérite d'être vue, quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais elle va remonter.
OK.
Je trouve le concept intéressant et je serais curieuse d'entendre, en fait, ou de lire les personnes qui pourraient nous écouter dans
mais
ce balado.
Excuse-moi, mais ça n'existe oui, oui. pas, ça. C'est pas déjà ça. Reddit, c'est pas ça. C'est pas Quora, oui. c'est pas ça. Il y a beaucoup de concepts. Ben, Facebook aussi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Les publications que les gens aiment ont plus de visibilité, non?
Oui, absolument. C'est
qu'ils
ont
plus de critères. C'est juste qu'on ne peut pas faire pouce en bas avec non, Facebook, c'est ça.
Oui. Okay. Ils ont plus de critères, en fait, okay. de... comment dire, pour juger la qualité d'une publication. Et aussi, si toi, en tant qu'utilisateur, on trouve que tes publications sont toujours brillantes et méritent d'être vues par tout le monde, ça, on va le voir sur ton profil.
OK.
Que t'es un utilisateur très
donc,
pertinent.
C'est vraiment chaque vote de la population de cette média ouais. sociale-là met de l'avant les contenus qui méritent d'être vus.
Exactement. Puis il y a aussi une autre fonctionnalité que j'avoue que je la comprenais un petit peu moins, qui appelle un niveau de confiance. Alors, quand on arrive sur cette plateforme-là, on peut utiliser un niveau de confiance de, je crois, je me rappelle plus des termes, désolé, mais il y en a trois. Puis il y en a un qui est, ben c'est ça, il y en a un, c'est de dire, ben, je veux juste que ça soit vu par les personnes qui me suivent et qui me connaissent, okay. ce que je vais publier. À l'autre vu par tout le monde. Donc,
okay, c'est peut-être ça la notion de santé mentale, c'est-à-dire de ne pas nécessairement oui. se révéler à la planète entière à chaque fois que tu parles sur un média social, là, puis et en subir les conséquences. Là. C'est-à-dire que les trolls, et puis bon, on sait là, qu'il y a plein de l'intimidation en ligne est
oui.
quand même quelque chose qui existe et qui est un problème préoccupant.
Mais c'est ça, c'est vraiment. Oui, pour l'évaluation, oui, que je disais des publications. L'idée, c'est... je voulais juste partager une réflexion par rapport ouais. à ça, parce que j'ai justement posé la question à Bruno, puis je me doutais bien qu'il allait me dire « Non, c'est pas vrai. » Mais moi, je me mets toujours dans la place d'un utilisateur, c'est mon travail d'envie. Et on sait, en fait, dans quelle posture on se met des fois quand on publie sur les médias sociaux. On s'attend à quoi? À avoir de l'attention. Si personne nous évalue, ça, c'est la pire affaire aussi, ça nous frustre. Et si éventuellement, on publie sur une plateforme comme ça, soit que, par exemple, les gens jugent que notre publication n'est pas de qualité, mais que tu t'es forcé, ou encore que c'est pas vu, puis que c'est comme ça seulement que... Ben, de toute façon, c'est comme ça sur les autres plateformes aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça va donner le goût d'y retourner? Mm. Puis comme on sait que ces plateformes-là, et nous aussi, ça va être ça aussi, ça repose sur une masse d'utilisateurs actifs qui ont le goût de revenir, qui ont le goût de s'engager. C'est bien beau les principes, mais il ne faut pas que ça coupe une certaine spontanéité aussi.
C'est vrai que
je me suis posé la question. Puis lui, il me disait non, c'est sûr que. Mais bon, encore là, ils sont à 6500 utilisateurs en ce moment, des gens probablement qui connaissent dans leur grand réseau.
Non, mais c'est sûr que si tu mets sur un. C'est sûr qu'effectivement, quand tu publies dans un média social, tu t'attends. L'indifférence, c'est, tu l'as bien dit, c'est la pire des insultes, mais si en plus tu sais que des gens n'ont pas aimé ta publication, n'ont pas trouvé que c'était de bonne qualité, ben tu vis ça comment? T'sais? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, sur Facebook, avec le fameux pouce en l'air, c'est l'indifférence ou c'est j'aime ça?
Ou t'adores.
Ou j'adore, ou tu sais. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'avoir des critiques négatives ou des. Parce qu'on a déjà eu cette réflexion-là, je me rappelle, je pense avec Simon-Pierre, on avait des personnes qui étaient avec nous au départ, sur les fameux emojis, comment est-ce qu'on fait pour réagir à des publications. On avait eu une bonne discussion là-dessus. Puis effectivement, il y a ce côté-là, si on peut faire des réactions négatives à des posts. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Puis est-ce que ça va donner le goût aux gens de participer? Oui, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation.
Oui, c'est ça. Moi aussi, je me posais la question de juger de la qualité, en fait, aussi. Carrément, là, comme si on a des niveaux trop précis de qualité, ça devient presque scolaire, si on veut.
Puis qui juge de ça? C'est n'importe qui aussi.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on a à retenir de Quice pour nous si on t'envoie là, à la chasse? Et puis qu'est-ce qu'on retient pour nous là, des bonnes idées à piquer? Là?
Bon, des bonnes idées à piquer, je dirais, ben on est à la même place. Je crois. Il va falloir avoir une bonne équipe encore. Je reviens avec l'idée que j'amène depuis tantôt de ne pas se fatiguer à partager cette idée-là. Eux, ils ont réussi quand même à créer déjà une première version de leur application, mais. Ils ont travaillé en bénévolat pendant 4-5 ans. Donc, il faut vraiment y croire, il faut être passionné par ce projet-là. L'autre aspect, puis ça, je trouve que ça s'inscrit dans une vision plus du futur. Moi, je suis d'avis, en fait, que tout ce qui concerne les sciences humaines, bon, l'humain dans le développement de la technologie va être pris de plus en plus au sérieux.
En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi.
Oui, c'est ça, je prends un petit chemin de parallèle rapidement. Récemment, je partageais une publication sur LinkedIn d'un penseur que j'aime bien, qui était de Dioa, peut-être que je prononce mal son nom, bon, critique culturelle et homme de jazz, et qui, j'adore ce qu'il dit, puis c'est ça, c'est toujours tellement fin et juste. Qui dit qu'il y a un appétit croissant présentement pour les sciences humaines, pas juste chez les jeunes, mais les plus vieux qui, tout d'un coup, ils se rendent compte que ça, on n'en retrouve plus ça dans la technologie. Ça devrait faire partie intégrante. Et étant moi-même dans le domaine technologique, on se rend compte, je pense que c'est la première fois de ma vie, là, qu'on est rapidement dépassé. Puis tout le monde le sent. Alors, quel intérêt éventuellement de toujours développer des choses qui sont extrêmement avancées d'un point de vue technologique, mais que les gens ne suivent plus? Alors, il faut arriver à aligner ça.
C'est lui qui disait dans l'article, puis je l'avais retenu, les gens ont débarqué de la technocratie, là, je le cite mal, là, mais parce que le monde souffre de ça. Les technocrates, on souffre de ça actuellement. Tu sais, on fait juste pas là, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais le développement qui est en train de se faire autour de ça, effectivement, il est où l'humain là-dedans? Là? Qu'est-ce que ça sert à qui tout ça? Là? Ça va être encore une grande disparité. Il va y avoir des riches qui vont utiliser, qui vont profiter énormément de l'IA et la classe ouvrière, on ne l'appelle plus comme ça, mais elle existe, n'en profitera pas et va souffrir de ça. J'ai l'impression, avec le développement qu'on est en train de faire avec ça, qui est encore une fois déréglementé, pas encadré, tout croche. Je suis content quand même qu'on ait rapidement, avec l'IA, que rapidement, les jovialistes ont été tassés. On a rapidement dit « attention ». Tu sais, bon, comment ça s'appelle, Yoshua Bengio, là, qui avait fait la sortie, bon, sur « faudrait stopper le développement ». On n'a pas fait ça avec les médias sociaux. On a été dans le jovialisme pendant très, très longtemps et ça a été une erreur. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de répéter cette erreur-là, mais bon, je suis peut-être jovialiste. Je sais pas.
L'esprit critique revient de plus en plus par rapport à ça.
C'est très bien.
C'est parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de suivre la folle accélération de tout ça. Puis moi, je me situe là-dedans et j'aime bien garder une posture critique. Et là, pour revenir à quoi, je trouve, malgré eux autres aussi, là, ils ont beaucoup de petits défauts et peut-être trop d'optimisme par rapport à certaines fonctionnalités. On pourrait en parler plus longtemps, mais je crois que ce qui est important, c'est les valeurs humaines dans ça, puis de le faire à plus petite échelle. J'ai bien hâte de voir où ça va aller. Puis je leur ai dit, on va se parler.
On va se suivre mutuellement. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Claudia, de ta présence aujourd'hui. Je suis content de t'entendre dire qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'il faut garder l'énergie là, parce que, bon, tu sais, tu n'es pas une des instigatrices du projet, tu es venue un petit peu après, donc je suis content que tu t'embrasses ce projet-là, puis tiens, je pense que tu auras ta place là-dedans. Tant que tu auras l'énergie, c'est clair.
C'est une question d'énergie.
Voilà. Merci, Claudia.
Merci.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je veux souhaiter, en terminant, la bienvenue aux nouveaux participants à notre groupe. D'abord, bienvenue à Stéphane Hamel, qui enseigne le marketing et l'analytique web. Julien Pierre, aussi spécialiste en communication numérique et professeur à l'Université de Sherbrooke, qui s'est joint à nous. En fait, je suis allé présenter la nouvelle place à ses étudiants et étudiantes il y a quelques semaines. Et bon, voilà. D'ailleurs, Jamie Roussel, qui était parmi ses étudiantes, qui s'est jointe à notre groupe après cette allocution. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Si vous aussi, vous voulez participer aux discussions, aux échanges, donner peut-être de votre temps, être aux premières loges de la gestation de la nouvelle place, écrivez-moi, je vais vous inviter. On a un serveur Discord où on échange on discute un peu sur les différentes facettes de ce vaste projet. Donc, vous pouvez m'écrire tout simplement à l'adresse info@commercialnouvelleplace.ca. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant au balado ou à l'infolettre. Pour faire ça, vous le faites soit dans votre outil de balado ou pour vous abonner à l'infolettre, on se rend sur nouvelleplace.ca. Je m'appelle Steve Proulx. Le balado La Nouvelle Place est une production de l'agence de contenu 37e Avenue et je vous dis à très bientôt.